Le commentaire de
Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
Salut Félix, je suis content de te parler parce que depuis quelques heures, je me pose une question d'éthique concernant le journalisme d'enquête. Et t'es un vrai journaliste d'enquête. D'ailleurs, je veux dire aux gens, là, on ne s'improvise pas journaliste d'enquête. C'est extrêmement difficile, il faut être rigoureux, il y a des méthodes qu'on doit suivre. Et toi, j'imagine, Félix, t'as suivi une formation pour faire de l'enquête.
On a des formations continues pour devenir, au fond, pour parfaire les techniques de journalisme qui nous permettent de prétendre au titre de journaliste d'enquête. Puis c'est sans flagornerie que je t'affirme qu'effectivement, ça prend une qualité de vérification des faits. Puis ça prend aussi un cheminement là éthique dans tout ça. Je te dirais pas qu'il est supérieur aux collègues qui couvrent le quotidien. Je te dirais juste qu'on a le temps de le faire. On a le luxe d'avoir le temps de faire ce cheminement-là. On n'est pas dans ce qu'on appelle en journalisme le « all news » où on doit aller en onde là rapidement quand un événement se produit. Et évidemment, quand je te dis ça, j'enlève aucune qualité à ceux qui couvrent le « all news ».
Chacun sa job. Il y a les chroniqueurs, il y a ceux qui suivent l'actualité au quotidien, qui doivent sortir un texte par jour. Il y a des gens comme toi, journaliste d'enquête, vous êtes libérés, vous prenez comme un pas de distance. Et justement, il faut que tu recoupes les informations. Il y a des techniques aussi pour interviewer les gens, pour leur faire dire, les amener à dire certaines, à révéler certains faits qu'ils veulent tenir cachés. C'est quasiment comme une enquête policière. Et là-dedans, j'imagine qu'il y a un volet aussi éthique. Et là, la question que je me pose avec tout ce qu'on apprend sur l'UPAC, ça a l'air que ce serait peut-être des hauts dirigeants de l'UPAC qui auraient coulé des informations. Et là, je me dis, toi, t'es journaliste d'enquête, OK? Puis là, on parle en théorie. Je veux pas vraiment parler de ce qui t'est arrivé, puis bon, je veux pas savoir qui sont tes sources, bien sûr que non, puis tout ça. Mettons, tu sais, quelqu'un te fait couler une information parce qu'il veut que l'information soit rendue publique, parce que ça va faire capoter une enquête policière. OK, si une information est rendue publique, effectivement, ça peut faire capoter une enquête policière. Toi, comme journaliste, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis, cette information-là est importante, c'est d'intérêt public, je dois la sortir, puis après ça, on verra ce qui arrive, ou tu te dis, ben non, je la sortirai pas, je vais dormir dessus, puis je la sortirai pas, parce que ça risque de faire capoter une enquête policière. C'est quoi la décision que tu prends là-dedans?
Je vais t'expliquer, puis ça me dérange pas de te citer même ce qui est arrivé dans le cas de plusieurs des scoops qu'on a sortis au bureau d'enquête, puis de certains scoops aussi là qui en cause mettent des documents policiers, publient des documents policiers dans le journal ou à la télé. Tu sais, lorsque on est le bénéficiaire d'une fuite médiatique, d'une information privilégiée, on doit toujours, comme journaliste, se poser cette première question. Quel est le but oblique de la personne qui me fournit ces informations-là? Et presque dans 100% des cas, Richard, la personne qui te fournit l'information a un but oblique. Soit qu'elle en veut à la personne qui est accusée dans un procès ou dans un autre, soit qu'elle veut que c'est au contraire, soit qu'elle a de la sympathie pour cette personne-là et qu'elle veut qu'elle soit innocentée, soit qu'elle en veuille à plus grand que tout ça, un système qui ne fonctionne pas comme il faut, soit qu'elle en veuille à quelqu'un dans sa propre direction, soit qu'elle en veuille à ses collègues. Tu comprends que le spectre des raisons qui peuvent motiver une fuite comme ça est très large. Alors, tu dois te poser la question, j'y reviens, du but oblique. Alors, normalement, tu as identifié ce but. Mais la personne qui te coule des informations ou des documents qui a un but oblique, dans ta tête, puis dans la tête des patrons de presse, ça ne doit pas non plus venir nécessairement s'opposer à l'intérêt public. Alors, lorsque tu connais le but de la personne qui te parle, la qualité des documents que tu as entre les mains ou des informations, tu dois les valider. Puis lorsqu'ils sont validés, tu dois te poser la sacro-sainte question dans le journalisme d'enquête et dans le journalisme tout court, est-ce que c'est d'intérêt public? Et quand tu as répondu à cette question-là, mais là, ça, c'est pas fini, le dilemme éthique, Richard, c'est pas fini, ça s'arrête pas là. Lorsque tu as répondu à cette question-là, tu dois te poser la suivante. est-ce que les conséquences de la publication de l'article que je m'apprête à écrire surpassent, disons, l'intérêt public? Alors, est-ce que les conséquences sont plus graves que de servir juste le public? Je te donne un exemple qui m'est déjà arrivé, que je trouve qui illustre ça tout à fait. L'affaire Ian Davidson, vous vous en rappelez, c'est le policier du SPVM qui travaillait au service des renseignements qui, à quelques jours de la retraite, a copié la liste de tous les informateurs du SPVM puis a essayé de les vendre à la mafia.
Oui.
C'était une des plus grandes intrusions de l'histoire dans les systèmes informatiques du SPVM et ça mettait la vie de plusieurs informateurs en danger. Mmh. C'était un scandale dont on parle encore aujourd'hui.
Alors, parce que lui dévoilait le nom des informateurs à la mafia. Il disait, ils vont me payer. Puis après ça, la mafia, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ben, ils vont aller buter les informateurs, ils vont aller régler leur compte. Mais oui.
Et bien sûr. Alors, moi, je suis sur la route. J'arrive de Cornwall. Je couvre le procès Shafia à Kingston, Ontario. Et je suis sur la route. J'arrive à Montréal un vendredi soir et quelqu'un m'appelle. Puis, je me rappelle exactement j'étais où. J'étais rendu à la hauteur de l'île Perrot. C'est presque arrivé. On m'appelle et on me dit, est-ce que tu sais qu'il y a un policier du SPVM qui est parti avec la liste de tous les informateurs de la police puis veut la vendre? Je dis là, je tombe en bas de ma chaise. Je commence à faire des vérifications et c'est vrai. Là, on a des discussions avec nos patrons dans les jours qui suivent parce qu'on sait que c'est un méga scoop. Et avant publication, dans l'avant-midi, nous, on a choisi qu'on était pour diffuser la nouvelle et les policiers nous demandent d'attendre parce que on se fait faire le coup parfois. On se fait dire, ben tu sais, si tu fais ça, tu vas nuire bien plus que tu vas aider. Et notre enquête n'est pas terminée. Et il se termine souvent cette conversation en disant, ben tu sais, quand on va jobber, entre guillemets, quand on va finir notre enquête ou qu'il y aura des arrestations, on va te le dire, on va te le donner en premier. Je veux juste te dire que ça arrive pas souvent. On dit ça, puis finalement, ça arrive jamais. Et aussi, là, donc, tu comprends que là, moi, évidemment, quand les policiers m'ont fait part de cette position-là, on en a parlé à nos patrons. Puis, avec nos patrons, on a décidé que l'intérêt public surpassait largement, mais largement, le fait que l'enquête ne soit pas terminée. Le gars avait déjà été sous enquête, avait déjà... Donc, tu comprends...
Et ça, parce que ça démontrait, ce scoop-là démontrait les failles dans la protection là, de données extrêmement sensibles, là, que quelqu'un ait pu partir avec ces données-là, c'est d'intérêt public, parce que ça montre que le nom des informateurs de la police, ben ils sont pas protégés adéquatement.
Il y a une autre chose là-dedans, dans la question que tu me poses, c'est que tu cours un risque aussi, et c'est le suivant, c'est que l'affaire soit abriée par les autorités. Puis là, je ne suis pas, je me positionne pas en tant que tenant du complot, mais ça arrive que des organismes, qui sont policiers, politiques, gouvernementales, souvent, qui n'ont aucun intérêt à ce qu'une nouvelle soit rendue publique.
Ben oui.
Et justement, quand on prend, quand on fait cet exercice là de supposer le pour et le contre, puis de l'intérêt public et tout ça, on se pose la question aussi s'il y a un danger que les gens sur qui nous sommes en train de faire des reportages veulent tabrier cette affaire-là, puis qu'on n'en entende jamais parler. Et si le journaliste n'est pas là justement pour rendre public ce qu'on veut cacher, ben, il sert à quoi? Alors ça, c'est un autre choix. Donc, tu as raison de dire...
Mais Félix, c'est super gentil de nous parler de ça, parce que moi, je trouve ça passionnant. Et les gens voient à quel point c'est une sacrée job être un journaliste d'enquête. Premièrement, faire ton enquête, mais aussi la réflexion éthique qui vient avec. Et ça fait partie de ta formation aussi. Est-ce que toute information est bonne à dire? Est-ce que toute information est bonne à dévoiler? Parce que là, bon, il y a eu des fuites à l'UPAC, et là, ça a l'air que ça vient d'en haut. Et moi, je me pose la question comme n'importe quel citoyen. Toi, tu connais plus ça parce que tu connais les coulisses. Mais moi, je me pose la question comme n'importe n'importe quel citoyen. Est-ce qu'ils ont fait couler l'information parce qu'ils voulaient faire capoter l'enquête, parce que l'enquête touchait des gens qui étaient trop proches du gouvernement? Puis est-ce que l'UPAC était été mis sur pied par les partis libéraux? Tu sais, je veux pas tomber dans le complot, mais et là tu dis, ben là, est-ce que soudainement le journaliste n'est pas un instrument à ces gens-là pour régler leur compte et faire capoter l'enquête? C'est toutes des questions
que
tu m'as posées.
C'est une question que tu te poses, que je me pose toujours.
Ben
on
oui.
se pose la question à savoir si on est instrumentalisé parfois par des sources. Et dans le cas de la nouvelle qu'on publie ce matin au bureau d'enquête, c'est justement celle à laquelle tu fais allusion dans le jugement sur les délais déraisonnables qui ont fait capoter le procès de Nathalie Normando. Le juge Perrault dit que les fuites, je le cite, dans un jugement qualifié de savant par les procureurs de Mme Normando, il dit « les fuites résultent d'une action concertée des hauts dirigeants de l'UPAC pour des motifs personnels et obliques ». Regarde ce qu'on trouve dans cette citation-là du juge Perrault, le but oblique, Richard. Alors, moi, je me pose cette question-là en permanence. Qui tente souvent de nous utiliser? Pourquoi quelqu'un tenterait de nous utiliser? Et d'abord, est-ce que tu sais que tu es utilisé? Parce que si tu sais que quelqu'un essaie de t'utiliser, déjà, tu as une petite longueur d'avance parce que tu connais, tu sais dans quel film tu joues. Mais moi, j'en reste persuadé que dans quelques rares cas, des fois, on dirait que tu joues dans un film que tu n'as pas écrit. Mais normalement, c'est toi qui écris le scénario.
Oui.
Puis on dirait que des fois, c'est quelqu'un qui l'écrit à ta place, puis tu as des ondes d'ombre, puis tu te dis, mon Dieu, mais pourquoi tout ça? Mais en même temps, tu te reportes à ton devoir. Toi, tu n'as pas été engagé pour écrire des scénarios de films. Tu as été engagé pour servir l'intérêt public. Alors, est-ce que tu le sers en le faisant? C'est ça le dilemme.
Oui.
Peu importe dans quel scénario tu joues,
et même
toujours par servir le public aussi, mais en même temps, tu comprends, c'est pas...
Tu peux être, parce que c'est certain que si quelqu'un te coule l'information, il y a un intérêt. Lui, il a un intérêt, c'est soit de couler l'information. Mais même si tu es instrumentalisé, ben peut-être que quand même cette information-là est d'intérêt public. Puis donc, l'intérêt public prime, parce que c'est ça ta job, toi, de sortir une information qui est d'intérêt public. Fait que même si t'es instrumentalisé, le but final, c'est que le public a le droit de connaître cette information-là.
Ben c'est ça. Puis moi, au final, des fois, je me dis, t'sais, Félix, est-ce que le chapeau tu fais? Tu sais, s'il y a quelqu'un qui poursuit d'autres objectifs que le simple fait d'être gentil avec toi. Les gens sont pas gentils en 2020 avec les journalistes juste
non.
parce qu'ils aiment bien leur bine. Là. C'est pas comme ça. Tu sais, je me dis souvent, est-ce que le chapeau me fait? Puis finalement, il me fait. Il fait bien, tu sais. Alors, je me dis, continuons. Puis continuons sur cette lancée-là. Puis faisons juste en sorte de toujours se poser les questions que je viens de te mentionner pour garantir aux gens à qui on s'adresse qu'on se les ait posées. Puis que le résultat de ce questionnement-là est dans le journal le matin ou à la télé le soir, puis c'est le minimum que l'on peut faire.
Et comme tu dis, toi, tu as une formation continue, c'est-à-dire que de temps en temps, tu vas, mettons, à des formations, tu rencontres des gens qui te permettent d'affiner, de mettre au point tes techniques d'enquête, de réfléchir, tout ça. Et c'est intéressant, exactement, c'est comme des policiers, là. C'est une méthode
oui, c'est
à...
C'est comme des policiers. Il y a un consortium des journalistes d'enquête, Richard, qui fait chaque année aux États-Unis, une association ICG qui fait des symposiums, qui tient des symposiums, qui n'auront pas lieu en présentiel, comme on dit cette année, mais dans lesquels tu peux consulter aussi tes vis-à-vis journalistes d'enquête, notamment, tu sais, dans les grandes émissions d'enquête américaines ou, tu sais, comme Dateline ou les gens qui à PBS, je ne sais pas si tu as déjà regardé cette émission-là, c'est une de mes favorites, Frontline.
Oui, ben oui.
Qui nous passe toujours, ma foi, qui accouche toujours de produits extrêmement rigoureux, fouillés, intéressants, puis les sujets sont bien choisis. Alors quand tu côtoies aussi tes vis-à-vis comme ça, qui ont du métier, ben ça fait partie aussi. Tu penses avec eux, tu te remets en question avec eux. C'est pour ça que c'est quand même cool le journalisme d'enquête.
Ah oui,
que,
écoute.
C'est pas donné à tout le monde d'avoir le temps de penser là. Au moins au final, quand j'ai, tu vas me dire c'est la vérité de la palisse, mais quand j'ai le temps de penser, quand je serai devant le jugement dernier, je me suis dit que j'aurais été un peu moins con à cause de tout ça, parce qu'on m'a donné le temps justement d'y penser. Et pour ça, je suis très très reconnaissant à tout le monde.
Et mais tant mieux, parce que là, on voit aussi un retour du journalisme d'enquête dans tous les médias confondus, là, médias écrits, médias électroniques. On voit que les gens, oui, c'est intéressant avoir des humeurs, avoir des commentaires, mais c'est encore plus intéressant d'aller au fond des choses, de faire des liens. Et ça, ben, ça prend un journaliste que tu libères pendant quelques semaines, des fois ça peut être quelques mois, mais qui arrive avec une christie d'histoire au bout. Puis vous faites une sacrée bonne job, le bureau d'enquête. Ben écoute, merci beaucoup pour ta candeur.
Merci, plaisir, Félix. Ça fait plaisir, j'aime ça parler de ça.
Merci, Félix Séguin, bonne journée. On attend bien sûr le point de presse de la santé publique.